Radio Air présente
VIP,
l'invité de la rédaction.
Il vient du monde de l'image pour passer avec nous un moment dans le monde du son, de l'audio. Notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est le réalisateur Steven Wiemin. Bienvenue à ce micro, Steven.
Merci.
Tu es bien sûr à l'aise avec l'image et le son, puisque tu es depuis toujours passionné par l'audiovisuel, d'aussi loin que tu t'en souviennes ?
Non. Pas si loin, quand même un peu loin, mais pas si loin. Je m'explique. J'ai plutôt été d'abord très intéressé par ce qui est de l'art visuel au travers d'un crayon, au travers de pinceaux. Donc quand j'étais jeune, je dessinais énormément avec ce que j'avais. Et puis j'ai intégré l'école des arts décoratifs à Genève après ma scolarité obligatoire. Mais ça n'a pas matché, comme on dit en bon français. Et donc je me suis retrouvé à faire un apprentissage de ramoneur parce que je savais plus où je voulais aller en fait. Et c'est durant cette période que j'ai, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais décidé de filmer le mariage en fait d'une amie. Donc j'ai acheté une petite caméra, je me souviens c'était une Action dans grande surface, à l'époque relativement élevée déjà le prix. Une petite caméra pour ceux qui s'en souviennent avec les cassettes mini DV.
Oui.
Donc, vraiment la caméra, on ne peut plus basique. Et puis, je m'étais acheté quand même deux accus hein, pour assurer le coup. Et j'ai commencé à filmer comme ça. Alors, avant, je faisais aussi un peu de photographie. Mon beau-père avait un appareil argentique Canon parce que le numérique, ben, il n'y avait pas encore. Et voilà, moi, j'avais personne pour m'expliquer, pour m'aider. Donc, j'ai fait une série de photos qui étaient toutes loupées. Peut-être qu'il y en avait deux, trois qui étaient bonnes. Donc, j'étais juste à une période compliqué pour se lancer tout seul dans l'audiovisuel. Parce que vraiment, on était à l'aube du numérique. Et donc, du coup, suite à cette expérience de film de mariage, ça a commencé là.
Une prise de conscience, en fait, qu'il y avait quelque chose à faire. Tu pressentais quelque chose ?
Oui, bonne question. L'image, en tout cas, et le son m'ont intrigué, m'ont plu. On peut raconter une histoire. On peut amener quelque chose aux yeux des gens, à l'oreille des gens. Et puis ça, je pense que ça a été un point de départ. Mmh. Oui, ça a été un point de départ qui m'a amené ensuite, je ne vais pas tout expliquer parce que je pense que c'est assez long, mais qui m'a amené ensuite en gros à chercher, à me lancer en fait dans le journalisme parce que j'ai pris conscience que c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi. Pouvoir raconter une histoire avec des outils. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans, il y a quelque chose de très large. C'est comme si tout s'ouvrait, en fait. Tout était possible.
Mmh. Et tout a été possible, effectivement, parce que tu es journaliste RP, tu as même plus de 12 ans d'expérience dans le monde de la télé. Comment ça s'est passé ensuite pour toi, ce passage au statut de réalisateur indépendant ? C'est quand même très différent, ça.
C'est très différent. Oui. Alors, je pense que ça s'est passé assez simplement pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu beaucoup d'idées, j'ai toujours été assez entreprenant et donc, du coup, à un moment donné, j'ai eu besoin de quitter la télévision où je travaillais pour vraiment, j'ai envie de dire, voler de mes propres ailes. Donc, c'était vraiment une direction que j'ai prise. C'est pas que ça n'allait plus, c'est pas que c'était pas bien, ça s'est mal passé. Non, au contraire, ça a été tout un chemin qui m'a amené à avoir une certaine expérience dans ce monde de l'audiovisuel et en particulier, moi je dirais, dans comment, en fait, construire une histoire. Et parce que ça, c'est un peu la base, hein. Après, il y a les outils.
Comment on la raconte?
Mmh. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est comme si j'ai obtenu les outils. Et après, je me sentais un peu coincé. Donc, je me suis dit, OK, je me lance. C'est une prise de risque. Mais dans ce métier-là, si on ne prend pas de risque, ça va être compliqué. Et en gros, quand je me suis lancé comme réalisateur indépendant, c'est comme ça un peu que je me nomme actuellement, journaliste et réalisateur indépendant. J'ai démarré ce projet, donc le projet qui est un film documentaire sur lequel j'ai travaillé 2 ans.
Mmh. On va y venir dans quelques instants, Steven, de ce projet. Il est né d'une aventure en particulier, une belle aventure que ta femme et toi avez décidé de suivre. On en parle juste après cette chanson.
Mmh. lui direz de rester assis bien droit plein de fois. Vous lui direz d'écouter la maîtresse, de ne pas quitter le rang, de bien faire ses devoirs et de devenir grand. Vous lui direz de ne pas mentir ni tricher, ni chercher à sortir des sillons creusés. Vous lui direz aussi sûrement que c'était mieux avant, au moins autant de fois que vous l'ont dit vos parents. Vous lui direz ce sont les règles, le code, les normes, et parlerez du respect que l'on mérite, que l'on donne, que l'on perd lorsqu'on tombe, et qu'une fois vaincu, arpentant l'inconnu, on cherche dans des ombres à l'avance. Je devine ce que vous direz, les joies, les beautés, les fardeaux à porter. Je voulais juste rajouter. N'oubliez pas de lui dire aussi qu'on se trompe souvent et alors qu'on recommence tout le temps. N'oubliez pas de lui ouvrir le regard à chaque fois, sur chaque chemin, chaque pas. N'oubliez pas de lui dire, soit normal ou différent. N'oubliez pas, il n'y a qu'en étant toi-même que tu deviendras notre enfant. Les gentils, les méchants, et ceux pour lesquels on n'a pas encore choisi un camp. Vous lui direz les valeurs, les rendez-vous, les couleurs, les passeports, les croyances, les marches vers l'indépendance, les attentes et le frisson. Vous lui direz la passion, vous lui donnerez les souvenirs, il vous en donnera les raisons. Vous lui direz attention, les risques et la pression. Vous lui direz la façon, mais n'effacez pas sa mission. À l'avance, je devine ce que vous direz, les joies, les beautés, les fardeaux à porter. Je voulais juste rajouter. N'oubliez pas de lui dire aussi qu'on se trompe souvent et alors qu'on recommence tout le temps. N'oubliez pas de lui ouvrir le regard à chaque fois, sur chaque chemin, chaque pas. N'oubliez pas de lui dire, soit normal ou différent. N'oubliez pas, il n'y a qu'en étant toi-même que tu deviendras notre enfant. Trompe souvent et alors qu'on recommence tout le temps. N'oubliez pas de lui ouvrir le regard à chaque fois, sur chaque chemin, chaque pas. N'oubliez pas de lui dire, soit normal ou différent. N'oubliez pas, il n'y a qu'en étant toi-même que tu deviendras notre enfant.
On est toujours en compagnie du réalisateur Steven Wiemin, qui est notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. Steven, avec ton épouse Iris, vous avez adopté un enfant avec une attention d'autant plus importante. C'est un enfant porteur de trisomie 21. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit vers Angelo, votre enfant?
Alors, tout un parcours de vie, évidemment. De mon côté, à l'école obligatoire, donc à l'école primaire, j'ai côtoyé un camarade porteur de trisomie 21 qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touché dans qui il était. Et je pense que ça a créé un terreau propice à être sensible, à être sensibilisé à cette thématique qu'est la trisomie 21. Et puis, ben voilà, la vie avance. Je me suis marié avec mon épouse. On a essayé d'avoir des enfants pendant 10 ans sans succès. Et puis, à un moment donné, on a pensé à l'adoption. On a été voir des personnes qui avaient adopté, qui ont adopté. Ça nous a un peu refroidi. C'est compliqué, hein, d'adopter des personnes qui ont été abandonnées. Il y a des problématiques assez fortes. Voilà, c'était quelque chose qui était pour nous, qui nous a paru peut-être pas tout à fait réaliste. Bref, ça n'a pas été plus loin. Jusqu'au jour où mon épouse, lors de sa formation en enseignement spécialisé, discute avec un de ses collègues de formation qui lui parle de son frère et de sa sœur adoptés et porteurs de trisomie 21. Et là, ça lui a un petit peu fait comme, on va dire, un déclic. Et puis, le jour même, le soir, elle m'en parle. Et quand elle m'en a parlé, moi, ça a fait pareil. Je me suis dit, ah ben oui, pourquoi n'y a pas pensé? Avant, en fait, moi, ça m'a rappelé ses souvenirs d'avec ce camarade. Et puis là, on a été voir ses parents qui ont adopté ces deux personnes porteurs de trisomie 21. Et on a encore voir aussi un autre couple qui avait adopté un tout petit porteur de trisomie 21. Et vraiment, on a été touchés. Oui, touchés, mais touchés par ces personnes.
Mm-hmm.
plus que par les parents, par l'adoption, par ces personnes. Et puis, je sais pas, c'est des... Il y a quelque chose de particulier dans leur manière d'être, d'entrer en contact avec les gens. Et ça nous a touchés. Et on s'est lancé dans cette démarche d'adoption pour un enfant, donc à besoin particulier, et là en l'occurrence porteur de trisomie 21.
Et qu'est-ce qui vous a conduit vers Angelo en particulier ?
Bon alors, vers Angelo en particulier, rien, puisque ça, à un moment donné, pour l'adoption, vous avez une enquête sociale, puis ensuite, en fonction de ce que vous avez spécifié en termes d'enfant, donc est-ce que vous voulez un garçon, une fille, quel âge, il y a quelques points que vous pouvez spécifier, nous on a tout coché, et...
C'était égal, en fait.
C'était égal. Et à un moment donné, c'est au niveau des instances qu'eux vont s'occuper de voir, ah ben, est-ce qu'il y a un enfant à tel endroit qui serait, qui est donc à l'adoption et qui correspond plus ou moins à ce qui a été demandé. Et puis, donc, du coup, on nous a proposé, à un moment donné, voilà, il y aurait cet enfant, Angelo, qui est à tel endroit, qui pourrait correspondre. Est-ce que vous êtes OK? Et puis, vous recevez, en fait, un dossier. Et puis, nous, on a vu la photo, puis on a craqué... À la seconde même, quoi.
Et la rencontre ?
La rencontre s'est faite donc, je dirais, environ un mois plus tard. Et là, la rencontre, alors, c'était particulier.
Il avait quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, il avait, je ne veux pas dire de bêtises, mais 15 mois. Parce que, oui, on a fait un mois. Et puis, on est parti avec lui à 16 mois. Oui, 15 mois. Donc voilà, on était chez les parents, la famille d'accueil. Les parents d'accueil, ils faisaient encore la sieste, on a attendu un petit moment, on a discuté, tout d'un coup elle a été le chercher, et elle est arrivée avec ce petit. Et ben, au début, vous voyez, je sais pas, vous réalisez pas, vous êtes là, ah, c'est notre enfant, ce sera notre enfant, c'est pas encore. Et ce qui s'est passé, et ça c'est extraordinaire, c'est que assez rapidement, en fait, ma femme l'a pris, et lui donc, il est venu dans les bras de ma femme et puis il regardait, il observait tout gentiment, sans rien dire. Et il y a quelque chose directement là qui a passé. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Moi, je ne l'ai pas pris le premier jour, j'arrivais pas. Mais elle, ça a tout de suite pris. Et on dit souvent, hein, l'adoption, c'est pas nous qui adoptons un enfant, c'est lui qui vous adopte. Et là, ça a été le cas. Ça a vraiment été le cas. Ouais, ouais, ouais.
Dress im Badi mit dem Storch und im Schnee, mit dem Schiff über die Schanze, mit dem Trotti auf dem See. Das Ross fährt Velo, ich galoppieren über das Feld. Bananen sind rosa-rot und Himbeere sind gelb. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre kräfst in die Tür. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre kräfst in die Tür. Leit es ei, das Grosse geht in die Schuhe und ich hab heute frei. Wische die Haare mit Abwaschmittel, das Geschirr mit Shampoo. Der Eisbär ruft ins Zimmer auf und ich bin im Zoo. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre treffst in die Tür. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre treffst in die Tür. Vogel liest das Buch und die Pfeifen auf der Tanne. Rühren die Soße mit den Stöcken, spielen Schlagzeug mit den Pfannen. Die Schäfer sind im Kühlschrank, der Käse im Schuhschaft. Ich trinke ein Stäbchen, der Papier-Saft. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre kräfst in die Tür. Heute ist verkehrt die Welt, Schubidua, hau die Busch. Du Evitre kräfst in die Tür. Let's
C'était Damaris Sutterman qu'on vient d'entendre. Je ne vais pas me risquer, Steven, à prononcer le titre de cette chanson. Tu veux bien nous le dire?
Oui, Ferretti Vote. Je ne suis même pas sûr de le dire très bien. Qui signifie le monde à l'envers et qui est donc une chanson, moi je trouve très très belle, chantée avec beaucoup de cœur. Et c'est un morceau en fait qui apparaît dans le film documentaire que j'ai réalisé.
Oui, donc on est toujours en compagnie de Steven Wiemann, un autre vraiment intéressante personne aujourd'hui. On en parle effectivement de ce film documentaire, Steven. Est-ce que justement le cheminement que ta femme Iris et toi-même vous avez vécu en adoptant Angelo, ce petit enfant ouais, vraiment tout petit, hein, il avait 15 mois à l'époque, que vous avez adopté et qui est porteur de trisomie 21. Est-ce que ce film documentaire, il est né là en fait? Il est né au sein de votre cellule familiale?
Oui, je pense. Toute une partie, oui, évidemment. Mm-hmm. Je pense que la plupart de ces films, de toute façon, sont en lien avec le vécu des personnes. On s'intéresse à tel sujet parce que nous-mêmes, on est concernés. Après, je dirais quand même aussi que j'ai une sensibilité, j'aime beaucoup raconter des histoires qui sont en lien avec l'humain, qui sont en lien peut-être aussi avec ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont peut-être regardés bizarrement. J'ai toujours été sensible par rapport aux minorités. Et là, du coup, c'est clair que là, on est totalement dans cette thématique.
Et en tant que parent d'un enfant porteur de trisomie 21, ça devient encore plus évident quand on est parent d'un enfant et puis on voit le regard des autres, un regard qui est peut-être apeuré ou...
Oui, alors c'est vrai que le regard des autres, je dirais effectivement apeuré, je ne sais pas, je dirais plutôt... chargé de méconnaissance sur le sujet. Et puis ça, c'est vrai que ça a aussi aidé à se dire « Ok, ça vaut vraiment la peine de faire ce film parce que même à l'heure actuelle, dans un monde d'intégration et d'inclusion, en fait, énormément de personnes n'ont juste aucune idée de ce que c'est. » Et là, je me suis dit « Bon, bah, ça ne va pas faire de mal, en fait, de faire un film. » Et c'est d'ailleurs le grand but du film. Hein. Ce film est vraiment d'abord pour des gens qui n'ont aucune idée. Les gens concernés, je dirais, ne vont rien apprendre avec ce film. Tout au plus, être touchés ou se retrouver dans le film.
Et d'ailleurs, le film s'appelle « Raconte-moi la trisomie ». Et le but, justement, c'était de donner la parole à ces personnes qui sont porteuses de trisomie 21.
Exactement. C'était le but, je dirais, c'était le défi, surtout. Parce que, voilà, y a quand même les aspects techniques. Un film d'1h12, il faut que ça tienne, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose à écouter.
Et à regarder.
Et à regarder, ouais. Voilà. Alors, du coup, comment avec des personnes où c'est vrai que, voilà, hein, c'est pas forcément eux qui vont tenir de grands discours, d'autant plus que mon fils apparaît dans le film et que lui, ben, ne parle pas, donc lui, c'est tout par l'image que ça passe. Et moi, je me suis dit, ben non... J'ai pas envie de prendre la direction de la sécurité en me disant « Ok, je mets un spécialiste, je mets un parent, je mets... » Et donc du coup, avec ça va remplir. Non, j'ai vraiment envie que le film démarre avec eux et se termine avec eux. J'ai d'ailleurs eu une remarque à la première projection en Suisse. Une personne qui m'a dit « Ah oui, alors au début, ça commence, bon, on n'a que des personnes porteuses de trisomie 21. » Et je me demandais quand c'est qu'il allait avoir le spécialiste ou le parent ou le... Et il n'y a jamais personne qui est apparu, bravo. Cette personne était vraiment surprise. Il a fait tout le film juste avec ces personnes. Et je pense que c'était un bon choix parce que ça valait la peine de leur faire confiance. Et c'est vrai, dans toutes les circonstances, ça vaut la peine de leur faire confiance parce qu'en fait, ils sont tout autant capables que nous. C'est peut-être juste une autre manière, une autre approche, une autre façon. Mais ce sera un résultat pareil, voire meilleur, parce que tout le monde le dit. Il y a tellement d'authenticité, il y a tellement de sincérité dans ce qu'ils disent. Il n'y a pas de contrôle de comment le dire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Ils disent les choses qu'ils ont au niveau de leur cœur, ils l'expriment et ça vous bouleverse.
Et puis c'est maintenant aussi le moment de la rencontre avec le public, hein, le fait d'assister aux projections. Et non seulement d'assister, mais d'être là sur place, de répondre à des questions. Ça, c'est aussi quelque chose de phénoménal en tant que réalisateur, de voir la réaction du public qui est là au cinéma pour vivre les choses vraiment, se prendre le film dans le cœur, si on peut dire les choses comme ça.
Oui, alors c'est totalement ça. Puisqu'il y a pas mal de projections où, à l'issue, ben voilà, moi je reviens devant pour échanger avec les gens. Et il y a eu plusieurs projections. S'il y a eu une question, c'était le bout. Donc on pourrait se dire, oui, bon, là, là ouais, alors peu de... Bon, est-ce que le film a plu?
Le
film n'a pas plu. Mm-hmm. Et en fait, le film est tellement chargé au niveau émotionnel qu'en fait, beaucoup m'ont dit, j'ai pas pu, je pouvais pas réagir sur le moment, c'était trop chargé. Pour vous donner un exemple, à une projection, une invitée qui était censée venir parler avec moi devant n'a pas pu venir. Elle était encore tellement dans l'émotion que en fait elle est restée assise. Elle pouvait pas, on va dire qu'elle pouvait pas bouger, mais elle était vraiment encore en train de digérer tout ce qui venait de se passer. Donc je me suis retrouvé seul et il n'y a pas eu beaucoup de questions effectivement. Et une autre réaction que j'ai eue par voie interposée, c'est-à-dire que une personne qui apparaît dans le film était là. Et elle a reçu un message d'une de ses amies qui lui a dit de transmettre au réalisateur comme quoi le film était magnifique, qu'elle a été bouleversée, elle est passée du rire aux larmes et vice-versa, et qu'elle n'avait pas de questions, juste envie de me prendre dans les bras, mais bon, elle n'a pas osé. Voilà, c'était la réaction et j'ai trouvé ça très touchant et ça m'amène à cette réaction, c'est qu'on parle de personnes, donc porteuses de trisomie 21, ce qui signifie, par extension, qu'il y a un retard. Et là, je me dis, eux, ils seraient venus me prendre dans les bras. Et à ce niveau-là, ils ont beaucoup d'avance sur nous.
Sans se poser de questions.
Exactement.
Hein, on y va.
On y va.
Quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards ravis, vous ne vous en doutiez du secret que j'avais gardé en rêvant de la vie au chaud pendant 9 mois. Le docteur a fait remarquer mes petits yeux en amande et mon nez un peu trop plat. Maman, elle a beaucoup pleuré, papa déboussolé, n'osait parler de moi. Mais moi je suis joyeux, oh, 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 oh. Je veux pas vous déranger. Avec mon grand frère, lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prennent autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille, pro et copains sont là à nos côtés. Avec moi joyeux, oh, 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 oh. Je vais tous vous chambouler, vous apprendre à aimer. Joyeux, oh, 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 oh. Voyez mon cœur immense avant ma différence. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. Ça vient avec bien plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Indépendant. Mais moi je compte bien prouver tout ce que j'ai à donner en allant travailler au café joyeux, oh, 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 oh. Laissez-moi exister sans peur ou préjugés. Joyeux, oh, 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 oh. Fier de mes compétences comme de ma différence. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop, ça vient plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Vous verrez que c'est mon pouvoir super-héros. Joyeux, oh.
toujours en compagnie de Steven Wiemann, notre vraiment intéressante personne, notre réalisateur, qui a fait ce film documentaire intitulé « Raconte-moi la trisomie ». Alors Steven, tu es quelqu'un qui a placé ta confiance en Dieu. Est-ce que ta foi a joué un rôle aussi dans toute cette aventure, non seulement du film, mais aussi l'aventure d'adopter un enfant porteur de trisomie 21?
Alors oui et non. Oui, parce que cette foi, ça fait partie de moi. C'est pour moi un style de vie. Mais non, dans le sens où c'est pas aussi simple de dire oui, j'ai la foi, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse de bonnes actions, ça veut dire qu'il faut que je fasse de belles choses, ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse à mon prochain. Pour moi, ça doit venir du cœur. Si je le fais juste par devoir, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Et je pense qu'à ce niveau-là, la vie m'intéresse. Choisir la vie m'intéresse. Je me suis toujours battu pour la vie. Et je dis ça moi-même. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées liées à la mort. À un moment donné de ma vie, je me trouvais tellement, nul et complètement inutile que c'était des réflexions que j'avais dans la tête. Est-ce que ça vaut la peine que je continue dans ce monde ? Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose de très fort chez moi.
De choisir la vie.
Choisir la vie et être authentique. Pour moi, c'est pas évident d'avoir la foi parce que je vois tellement d'incohérences chez des personnes que je côtoie qui ont la foi et dans ce qu'ils disent, ça reflète absolument pas ce qu'ils font. Et ça, c'est très dur. Je me dis à la limite, alors dites-le pas. Mm-hmm. C'est pas un problème, mais dites-le pas alors. Et en ce sens, alors oui, pour nous, c'est clair que ça nous a touché de se dire ah ben, ces enfants qui méritent. Qui ont droit à la vie, j'ai envie de dire, eh bien, ils sont abandonnés. Ben, nous, ça nous parle, en fait, d'en accueillir un, de l'accueillir chez nous. Et je dois dire honnêtement, maintenant, avec le recul, qu'au fait, c'est un énorme cadeau pour nous, parce que ce qu'ils nous apportent, c'est énorme. Ses rires, ses bisous, son amour, sa tendresse, mais aussi ce qui nous défie, hein. C'est pas que... de toute façon, un enfant, hein, ça vient défier.
Oui,
hein,
c'est adopté ou pas, porteur de trisomie ou 21 ou pas. Hein.
Mais là, c'est vrai que chez moi, ça a aussi mis en... Ça a aussi amené, je dirais, certains reflets sur des choses que peut-être j'avais pas traitées dans ma vie et que j'ai pu traiter. Notamment cette notion être père et moi, par rapport à cette notion, si on prend la foi, du père. Hein? Dieu, il a, si on ne veut pas faire de la théologie, mais j'entends, il y a plusieurs aspects. Il y a pour moi une notion de père qui était très compliquée à accueillir avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été travaillé, notamment face à l'arrivée de notre fils. Et ça, je dirais, c'est indépendant de l'adoption ou d'un enfant biologique. C'est un enfant qui arrive dans votre vie et qui met en miroir des aspects.
Ouais. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui a été fondamental pour toi dans ce parcours, justement, une pensée forte ou une parole forte ?
Non. Non, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient et il n'y a rien eu de... Non, moi, c'est plutôt vraiment... ma foi est quand même très liée à cette notion un petit peu de ce Dieu Père qui m'aime, en fait... de manière inconditionnelle, qui m'aime comme je suis, là où je suis, et quelle que soit la situation. Mmh. Alors on peut retrouver des versets, hein, c'est clair, la Bible est remplie de cette notion de Père, ne serait-ce que Jean 14, 6, sauf erreur, nul ne vient au Père que par le Christ, en lien avec la notion de Père, et puis plein d'autres textes qui vont parler de ça.
En tout cas, une très très belle aventure de ce que tu vis, non seulement avec l'accompagnement de votre enfant, Angelo, à ton épouse Iris et toi-même, mais aussi une belle aventure dans ce film, Raconte-moi la trisomie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'amène à imaginer encore d'autres histoires, peut-être en dehors aussi de la trisomie ? Est-ce que tu entrevois pour le futur d'autres sujets qui viennent se dessiner à l'horizon ?
Bon, alors ça, je dirais que c'est plutôt l'inverse pour moi. C'est comment trier, parce qu'il y a tellement, il y a tellement besoin, et je le réalise encore plus là maintenant avec ces projections, où je vois à quel point les gens actuellement, ouais, j'ai envie de dire, ont soif en fait d'authenticité, de sincérité, de la réalité, mais traitée, je dirais, avec bienveillance. Et donc, à ce niveau-là, il y a plein de thématiques, de sujets au niveau de l'humain qui sont vraiment intéressants et qui méritent d'être traités de manière profonde et intense, de manière bienveillante. Donc, oui, il y a du programme à l'horizon.
En tout cas, merci d'être venu nous parler aujourd'hui, nous raconter un petit bout de ton parcours, Steven. Et puis, tout le meilleur pour toi aussi pour la suite.
Merci.
T'abandonnes avant la ligne d'arrivée. Tu te questionnes avant d'avoir essayé. Freinant tes quatre fers face au destin. Quand ça s'accélère, tu remets à demain. Tu contemples ta nuit d'une toute petite fenêtre. La vue obstruée par tes mal-être. T'es content de ta vie pour pas dire que tu t'en contentes. Toujours occupé, l'âme absente. N'en fais pas une montagne, l'ombre déteindra sur toi. Le sommet ne se gagne pas en claquant des doigts. N'en fais pas une montagne, mais sache l'affronter pas à pas. Le sommet ne se gagne pas d'en bas. Toujours un tas de choses sur le feu. T'es partout et nulle part à ta place. Courir, t'investir tant que tu peux. C'est mieux que de se regarder dans la glace. Et ça fait bien longtemps qu'un peu trop tu réfléchis. Que tu ne ressens plus vraiment, que tu fuis. Ces blessures d'antan qui pèsent lourd depuis petit. Va bien falloir un jour faire du tri. Mais n'en fais pas une montagne, l'ombre t'éteindra sur toi. Le sommet ne se gagne pas en claquant des doigts. N'en fais pas une montagne, mais sache l'affronter pas à pas. Le sommet ne se gagne pas comme ça. Le sommet ne se gagne. Le sommet ne se gagne, le sommet ne se gagne pas d'en bas. Et quand tu penses l'avoir eu, dominant tes appréhensions. Ce n'est que le début. Tu as déjà en vue ta prochaine destination. Ce n'est que le début de la prochaine ascension.
Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.
Sur radio-r.ch.